Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonjour à toutes et tous. L'apérophonie du jour est consacrée aux rencontres de géopolitique critique portées par l'association Modus Operandi. La 6e édition, cette année, intitulée « Pour une citoyenneté plurielle et radicale » débute aujourd'hui et jusqu'au 19 mars. Donc, je suis Serena, salariée de l'association Modus Operandi, ou MODOP pour les intimes. Je vais vous guider dans cette émission, mais je tiens à préciser que nous sommes nombreux, nombreuses en studio. Il y a donc d'abord l'équipe salariée de MODOP avec Karine, Moinfo et Maude, des membres d'AssociaJeune comme Thomas et Alexia, mais aussi Leïla, Kofi qui fait partie prenante de l'atelier radio à plus d'une voix et Louis et Charlotte de Radio Campus en technique. Donc merci à Radio Campus Grenoble de nous accueillir dans vos studios pour présenter le programme de ces deux folles semaines organisées avec des partenaires multiples qui sont d'abord le laboratoire de sciences sociales Pacte de l'Université de Grenoble, le réseau Université sans frontières 38, la bibliothèque Antigone, le collectif Voisin, le festival Trouble ton genre, l'assemblée grenobloise d'accueil des apatistes, le centre socioculturel André Malraux à Jarry, AssociaJeune Le Mois décolonial et la librairie Les Modernes. Bon, avant de découvrir les différents et alléchants formats proposés de ces deux semaines, une mise en mots du thème « Pour une citoyenneté plurielle et radicale » par Thomas.
Bonjour à tous, je vais vous faire un slam alors. Il ne suffit pas d'habiter ce monde pour avoir des droits en partage. Bien que nous soyons tous humains, ce monde n'échappe pas à la division, à la rupture et au conflit. Traversant l'encloisonnement, la séparation, tout en excluant les catégories sociales. La frontière ne se réduit pas qu'à une carte. La frontière s'observe, elle voyage, elle circule avec les corps, elle mobilise, elle participe à construire des hiérarchies. C'est par les luttes et les mouvements sociaux que la citoyenneté devient accessible aux populations négligées. Être dans une société qui rassemble un ensemble de communautés. Pour cela, nous avons besoin d'un espace de rencontre pour discuter, partager, se dire les désaccords, voire élaborer des discours contestataires, ouvrant ainsi la voie aux transformations sociales. Les communautés ont besoin de vivre, d'être libres, je redis, d'être libres, vivre dans un monde où on ne fera qu'un. Voilà, merci de m'avoir écouté.
Merci bien Thomas, on pourrait se poser la question de savoir s'il faut habiter ce monde pour avoir des droits en partage. Très souvent, quand on évoque la notion de citoyenneté, on a tendance à la ramener à la question du droit de vote. D'aucuns disent qu'être citoyen, c'est habiter la cité. Et pourtant, si on veut penser la citoyenneté comme étant l'égalité des droits, on peut justement avoir une ouverture d'esprit qui nous amène à réinterroger cette notion qui tendrait souvent à la ramener à ce qu'on appelle le territoire ou la nation. Parce que si on voit la définition de la citoyenneté, comme tu l'as très bien amené dans ton slam, on peut justement se dire que la citoyenneté radicale et plurielle ouvre la voie à d'autres formes d'expression du droit et permet ici à d'autres personnes qui ne se reconnaissent pas un territoire, mais qui vivent ou bien qui habitent ce territoire, de pouvoir participer à la dimension collective que tu as mis en évidence. Et cette dimension collective n'est pas simplement ramenée à celles et ceux qui sont rattachés à la nation, mais celles et ceux qui habitent un lieu. Et quand on habite un lieu, on participe aux transformations sociales de ce lieu. Voilà pourquoi en ces deux semaines, on va essayer ensemble de réfléchir sur cette notion de citoyenneté pour voir comment celles et ceux qui n'appartiennent pas à ce territoire, mais qui vivent, qui habitent, qui résident dans ce lieu, participent aux transformations sociales. Voilà ce qui va habiter les deux semaines des rencontres de géopolitique critique.
Merci Thomas, merci Moifou pour cette mise en mots pour une citoyenneté plurielle et radicale. Donc, c'est le thème de la sixième édition des rencontres de géopolitique critique portée par Modus Operandi et dont nous vous dévoilons le programme aujourd'hui sur Radio Campus Grenoble 90.8. Karine, tu es salariée de Modus Operandi et tu as fait partie de l'équipe qui a créé donc ces rencontres de géopolitique critique. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi les avoir créées ?
Alors, je crois que pour cette année, le ton a été donné par Thomas et Moifou. Merci. À l'origine, en créant avec ses partenaires les rencontres de géopolitique critique, c'était en 2016, Modop se saisit d'un courant de la géopolitique critique pour le populariser. Et elle organise un événement public pour susciter le débat sur des sujets d'actualité. La géopolitique, c'est cette discipline qui étudie les enjeux de pouvoir au niveau des États, c'est-à-dire principalement les relations internationales. Le grand public entend parler de géopolitique quand des experts ou quand les responsables politiques analysent des enjeux politiques entre les États ou entre des organisations régionales ou des organisations internationales. À Modop, nous, on conduit des actions de recherche avec des personnes qui vivent des situations de violence structurelle. Collectivement, dans ces actions, on produit du savoir sur ces situations. On diffuse ce savoir à l'université où on enseigne, mais pas seulement. On veut surtout diffuser ce savoir auprès de tous et de toutes. Donc en 2016, quand on a créé les rencontres de géopolitique critique, on a reconnu dans ce courant critique de la géopolitique un potentiel intéressant, à la fois pour étudier les formes de violence produites par les systèmes qui nous gouvernent et qui gouvernent nos vies et nos sociétés, et pour diffuser plus largement ce savoir produit collectivement.
Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce courant critique de la géopolitique finalement ?
Alors, tout d'abord, ce courant critique permet de changer d'échelle et de regarder au niveau des personnes et pas seulement au niveau des États et des institutions. Et en changeant d'échelle, il permet le décentrement. Ça veut dire regarder la réalité sociale non pas seulement depuis le centre dominant, c'est-à-dire celui qui énonce le savoir, celui qui par exemple énonce ce qui est violent ou qui est violent, mais il permet de se décentrer et de considérer les situations depuis les périphéries ou depuis les points de vue des personnes concernées. Ce décentrement, il permet enfin de multiplier les points de vue et de rendre compte d'une vision à partir de ce que vivent les gens. C'est une approche par le quotidien et une vision du monde de fait, et non pas théorique ou distanciée depuis les institutions. Donc la géopolitique critique a fait surgir de nouveaux objets d'étude, notamment du côté de l'étude du pouvoir et de ses contre-pouvoirs. On étudie par exemple les résistances au pouvoir, les mouvements sociaux, la capacité d'agir des personnes et des conditions d'émancipation. Et pour les étudier, la géopolitique critique s'est articulée à d'autres approches, comme les études féministes, les études subalternes, l'intersectionnalité, car elles sont mieux adaptées à ces objets d'études. Et donc parmi ces nouveaux objets d'études, on peut citer le domestique ou l'intime. Le foyer, par exemple, n'appartient pas traditionnellement au champ du politique ou de la géopolitique, car c'est un espace qui est généralement dépolitisé. Or, il n'est pas exempt de rapports de pouvoir.
Et concrètement, sur quoi en fait travaille l'association Modop, le lien avec ce courant critique de la géographie, justement ?
Alors, pour étudier la violence des systèmes et la violence épistémique sur lesquelles nous travaillons, ces approches sont très utiles et nous les mobilisons beaucoup. Donc, par exemple, on travaille beaucoup sur les enjeux de l'immigration, qu'elle soit ancienne ou plus récente, et la citoyenneté est une idée qui est présente dans nos réflexions depuis longtemps et qui se pose au quotidien pour les personnes avec lesquelles on travaille. Par exemple, qui est reconnu comme citoyen ou citoyenne, qui ne l'est pas. La citoyenneté fonctionne beaucoup comme une invitation. Les citoyens et les citoyennes seraient invités à se prononcer de temps en temps. Ça nous a donné envie de partager ces critiques et comment la citoyenneté est organisée et du coup de réunir des gens qui auraient envie de dire ce qu'elle devrait être et ce à quoi ils et elles auraient envie d'en faire.
Du coup, je note que tu as utilisé un concept un peu barbare, peut-être pour les oreilles de nos auditeurs et auditrices, la violence épistémique. Est-ce que tu peux nous dire juste deux mots, qu'est-ce que c'est ?
La violence épistémique est ce procédé, et cette violence qui est produite du fait de la reconnaissance ou non de ce qui est savoir et de ce qui n'est pas savoir. Il y a des institutions un peu patentées, labellisées comme ça, comme produisant du savoir, par exemple l'université. Et donc le savoir produit à l'université est justement considéré comme du savoir, mais d'autres formes de savoir produits par d'autres acteurs et d'autres institutions sociales ne sont pas toujours reconnues comme du savoir.
Ok. Et pour revenir du coup en particulier sur les rencontres de géopolitique critique qui sont au cœur de notre émission aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner des éléments un peu sur la forme de cet événement et de ces multiples étapes ?
Oui, alors l'idée à la base des rencontres est vraiment de faire se rencontrer. Alors en organisant des événements à la fois à l'université et en dehors de l'université. Et l'idée est de faire venir à l'université des gens qui n'ont pas l'habitude d'y aller et d'inviter des universitaires en dehors de l'université. Donc par exemple, on organise peu d'événements dans un format un peu professoral ou vertical du type de conférence, où on trouve que le risque est grand que le propos diffusé à ce moment-là soit un peu écrasant. On organise plutôt des formats d'ateliers, des jeux, et aussi des interprétations artistiques pour restituer des résultats d'études scientifiques. On va en parler justement un peu plus tard dans l'émission. Donc les rencontres ne sont pas pensées comme des événements pour les spécialistes. On parle du quotidien, on parle de l'actualité, comme cette année avec la citoyenneté.
Donc je répète, c'est la 6e édition, c'est donc un événement récurrent, ces rencontres de géopolitique critique. Et généralement, après cet événement, Modop réalise une publication. Il s'agit d'un cahier qui porte le même titre que l'édition des rencontres sur laquelle il porte. Comme par exemple le cahier que Modop publie cette année s'appelle « Faire monde », comme la 5e édition des rencontres de géopolitique critique qui s'appelait « Faire monde ». Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce cahier ?
Oui, alors effectivement, on a à cœur chaque année de garder une trace des rencontres. Donc l'année dernière et l'année précédente étaient un petit peu spéciales. Pour 2020, on avait préparé une édition des rencontres donc, qui devait s'appeler Faire Monde. On a eu un invité inattendu dans ces rencontres, qui c'était le Covid, donc qui nous a complètement empêchés de réaliser cette édition. Donc il n'y a pas eu de rencontre en 2020, on était tous confinés en réalité. Et en 2021, il y avait encore énormément d'incertitudes autour des contraintes sanitaires. Donc on a fait le choix d'organiser des rencontres radiophoniques dans ce même studio ici à Campus Grenoble. Et malgré tout, on a tenu à garder une trace de cette édition. Et donc c'est ce qu'on a fait dans ce nouveau numéro des cahiers des rencontres, Faire Monde, où on s'est efforcé... De garder donc une trace des discussions qu'on a eues. Alors au passage, toutes les émissions des éditions des rencontres de l'an dernier sont disponibles en podcast sur le site de Modop, ce qui nous a permis de pouvoir faire des petites citations des choses qui avaient été dites dans ces émissions. Et on a aussi sollicité les participants de ces émissions pour écrire sur leur participation.
Et comment trouver du coup ce cahier ?
Alors, cette magnifique revue sera disponible à la vente sur tous les événements des rencontres. Vous le retrouverez en venant nous voir. Et il est également disponible à la librairie Les Modernes, rue Lacanale à Grenoble.
Et aussi sur notre site internet www.modop.org, où vous pouvez aussi retrouver le programme. Merci Karine pour tous ces éclairages sur... les rencontres de géopolitique critique, dont on retrouve toutes les infos, comme on l'a dit, en ligne sur notre site internet. Vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8. Et après une pause musicale, vous entendrez des descriptions sur des différents temps des rencontres, avec en particulier une présentation du cycle d'écoute de l'atelier radio à plus d'une voix, qui sera faite par Kofi. Donc pour cette pause musicale, on vous propose d'écouter Zina du groupe Babylone sur les conseils de Feti, complice de l'équipe de Modop. Bonne écoute.
اليوم راني معاك غدوة تاني متمني يكتب بالمكتوب ونكون حداك آه يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواج وداني معاه تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني وقلي حبيبك ما تنساه هي زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي إيه سينا ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا آه يا سينا ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا
Vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8 et vous écoutez l'apérophonie consacrée à la 6e édition des rencontres de géopolitique critique. Après vous avoir intronisé au thème de cette année, pour une citoyenneté plurielle et radicale, on vous propose de décrire différents temps de ces rencontres en commençant par le cycle d'écoute de l'atelier radio à plus d'une voix qui se déroule entre le 9 et le 11 mars donc de cette semaine avec 4 écoutes de documentaires radio. Kofi, tu fais partie du collectif à plus d'une voix depuis les débuts, donc en 2016. Est-ce que tu peux nous parler de cet atelier radio ?
Merci. La genèse déjà de l'atelier radio, c'est dans un contexte où j'étais enseignant. J'ai dit j'étais parce que je ne le suis plus, j'ai plus le temps. J'animais des ateliers sociolinguistiques à destination des personnes migrantes, comme on dit. Et Serena et Karine sont venues me voir parce que je m'occupais du groupe avancé. Et elles ont émis l'idée de monter un atelier radio qui servirait de prétexte pour continuer l'apprentissage de ces apprenants-là. Donc, on a évoqué des thèmes et chaque fois, on a commencé à enregistrer ces thèmes-là. On a commencé à inviter des personnes étrangères ou groupes qui venaient et on préparait des questions qui nous servaient de prétexte pour débattre sur des sujets très importants. Donc c'est comme ça qu'est né cet atelier radio qui continue encore de faire, quand l'occasion se présente, de se produire.
Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment se passe concrètement cet atelier radio ?
Ça se passe au cours d'une salle, au cours des cours de français, comme je dirais. Et par exemple, l'idée vient souvent des apprenants eux-mêmes de parler de choses, parce que souvent ils n'ont pas l'occasion de s'exprimer ailleurs. Donc cette idée est venue d'eux-mêmes de pouvoir se prononcer sur des sujets qui les concernent directement. Parce qu'on a l'habitude de donner la parole aux soi-disant experts qui passent sur les plateaux radio et télévision, et on ne donne jamais l'occasion aux personnes concernées de s'exprimer. Donc on a voulu prendre le revers de la chose pour donner l'opportunité aux personnes qui sont directement concernées par le sujet de s'exprimer sur les questions migratoires notamment, mais d'autres sujets par ailleurs. Ce n'est pas seulement la question migratoire, mais on pense que tout citoyen, quel que soit son niveau, a quelque chose à dire sur la chose qui le concerne. C'est pas les soi-disant experts seulement qui sont habilités à parler.
Oui, justement, j'allais y venir. Est-ce que l'atelier est consacré seulement aux questions migratoires ? En tout cas, de fait, même si c'était pas l'objet de l'atelier initial, en fait, finalement, la question migratoire, on va dire largement, mais en fait, la question de l'asile, la question de comment sont traitées les personnes qui cherchent un refuge en France, comment on les désigne, comment on les regarde, est vraiment au cœur de l'atelier et on n'en décroche pas tant que ça. Pourquoi, à ton avis ?
C'est normal, je dirais, parce que c'est ce que vivent ces personnes-là, c'est leur vie, en fait. Il n'y a pas plus crédible que soi-même de parler de sa propre situation. Donc, quand on donne l'opportunité à des gens qui n'ont pas l'habitude de parler de leur vie, bon, ils vont saisir cette opportunité, même si au début, j'avoue que ça a été un peu réticent pour certaines personnes d'entre elles. Et finalement, elles se sont prises au jeu et elles ont commencé à se livrer, à se prononcer, à parler, à discuter. Et c'est un moment très enrichissant parce que moi, je continue d'apprendre et j'ai appris beaucoup de ces échanges-là, d'ailleurs.
Oui, bah justement, parce qu'on dit que c'est un moyen de produire en fait, du savoir collectivement, et donc on s'apprend les uns les unes aux autres. En fait, on se transmet des connaissances, des ressources, et on produit une forme de savoir ensemble. Et aussi, il y a une partie de l'atelier assez ouverte sur l'extérieur. Est-ce que tu aurais envie d'en dire deux mots avec ces échanges avec les personnes qui ne font pas partie du groupe, les présentations publiques ?
Oui, pendant les ateliers, quand on discute nous-mêmes sur des thèmes qu'on trouve importants, après, l'occasion se présente, on a l'idée d'inviter des personnes plus ou moins expertes sur le domaine pour venir donner leur point de vue. Étant donné que nous-mêmes, on sait plus ou moins ce qu'on sait déjà sur ces sujets-là, et c'est une manière pour nous d'opposer ou bien de mettre en parallèle nos croyances, nos manières de comprendre les choses en fonction de ce que cet expert-là va nous dire. Et ça nous permet d'évoluer, d'avancer sur d'autres manières d'approcher notre situation, bien nos problèmes, je dirais.
Ouais, et puis aussi, il y a des moments où c'est un peu c'est comme une session d'information, finalement, pour les personnes rencontrées lors des interviews. Et puis, on fait aussi pas mal de présentations publiques, comme là, cette semaine, qui ont pour objectif de discuter avec un nouveau public, en fait, qui serait un peu moins informé, peut-être, sur ces questions, ou en tout cas, qui n'aurait pas l'occasion d'avoir cette parole en direct, finalement.
Oui. À chaque occasion, chaque moment d'échange est un moment propice pour nous d'évoquer. Souvent, les thèmes naissent comme ça, par le fait des contradictions naturelles qui viennent au niveau de... Il faut dire, j'ai oublié de le souligner, que dans ces ateliers, il y a des personnes qui viennent d'horizons diverses. Donc, évidemment, on n'a pas la même manière de voir les choses, on n'a pas la même manière de comprendre les choses. De là naissent les incompréhensions qui font avancer vraiment la réflexion. Et c'est très enrichissant, comme je disais tantôt. Et ça permet de nous préparer pour avoir d'autres approches de la chose, quand on échange déjà entre nous au niveau de la télé-radio.
Et du coup, je viens aux 4 documentaires sonores qui sont proposés cette semaine. Donc, ils ont été réalisés entre 2018 et 2022. Ils s'appellent « Dubliné et terrorisé »,« Les mots des autres »,« Face au récit médiatique, notre parole » ou encore « A-t-on le droit d'exprimer sa colère ?» Est-ce que tu pourrais un peu nous décrire la façon dont on a produit ces documentaires, en fait, un peu comment on en est arrivé à ces formats différents ?
Je pense que si j'ai bonne mémoire, la première émission qu'on a produite, c'était Les mots des autres. Voilà. On s'est rendu compte que les qualificatifs ou bien les termes employés pour qualifier, pour décrire les personnes qui arrivaient, les personnes migrantes, étaient un peu, on dirait, péjoratives. Donc, on s'est dit, mais comment faire qu'on puisse changer les choses, que nous-mêmes, on nous laisse nous-mêmes nous présenter, au lieu que ce soit les gens qui soient en train de nous présenter sur les plateaux TV, parce que souvent on dit la vague migratoire, des choses comme ça. Donc ce sont des mots qui sont employés, et on s'est rendu compte que quand on donne l'occasion à ces migrants-là, pour ceux qui les fréquentent, ils se rendent compte que finalement, ce sont des personnes ordinaires comme nous. Donc c'est pas des gens qu'il faut qualifier de tous les noms. Et ces échanges-là, ces ateliers-là ont permis de développer cette réflexion sur comment nous-mêmes on se qualifie, nous-mêmes entre nous. Parce que je me souviens d'un échange où il y en a qui disaient qu'ils ne préfèrent pas qu'on les appelle migrants, il y en a qui préfèrent qu'on les appelle des réfugiés. Donc c'est ce genre de réflexion qui nourrissent l'atelier. Et c'est. Bon, on continue de réfléchir.
Et je réfléchissais un peu à ces 4 formats. C'est vrai qu'au début, dans les 2 documentaires qui sont donc les plus anciens, on incluait beaucoup de paroles, en fait, de personnes extérieures à l'atelier avec lesquelles on faisait des interviews,
ouais.
Comme dans Les mots des autres, où il y a des paroles d'étudiantes ou de responsables associatifs qu'on a interrogés sur cette question des mots. Et puis ensuite, dans Dubliné et terrorisé, on a interrogé quelqu'un qui travaille dans une association qui suit les demandeurs d'asile et qui les accompagne dans leur procédure Dublin. Exactement. Pour avoir un peu son point de vue. Et progressivement, en fait, on a arrêté d'inclure aussi ces paroles dans les documentaires. À ton avis, qu'est-ce qui nous a amené à ça ?
Je pense que la situation générale je dirais du monde entier a participé à cela, parce qu'il y a eu cette question de Covid. Et puis bon, finalement, on s'est dit que nous-mêmes, on était plutôt aptes à parler de nous-mêmes. Donc peut-être que mais je pense que ce serait bien aussi de faire revenir des personnes extérieures pour avoir leur point de vue. Ça va enrichir encore les choses, parce que le constat que j'ai fait, c'est le même groupe du départ, qui la majorité sont encore là. Donc ils ont une nouvelle manière de parler, de s'exprimer. On est plus à l'aise devant le micro, devant la présence des gens. Parce qu'au début, la timidité était vraiment présente, mais maintenant, on est lâché, les gens s'expriment facilement. Donc, voilà.
Ouais, c'était le but alors. Et aussi, pour le documentaire qui s'appelle « A-t-on le droit d'exprimer sa colère ?», on s'est dit qu'on n'avait pas envie de mélanger les paroles de colère de d'autres personnes qui ne vivaient pas la procédure d'asile ou la précarité administrative, que ça pourrait être confus, en fait, pour les auditeurs et les auditrices. Est-ce que tu veux nous dire un dernier mot par rapport à ce cycle d'écoute ou au dernier documentaire justement qu'on présente pour la première fois cette semaine, Face au récit médiatique, notre parole?
Ah oui, ça c'est plus que d'actualité d'ailleurs, Face au récit médiatique, notre parole. Parce que notre parole, oui, parce que c'est nous seulement, nous sommes les seuls qui pouvons, je pense, si on nous donne l'occasion, je pense qu'on doit tout faire d'ailleurs pour prendre la parole, pour qu'on puisse nous-mêmes parler de nous-mêmes. Voilà. Et je profite de l'occasion pour me remercier la radio qui nous accueille aujourd'hui pour être ce canal-là par lequel on va pouvoir s'exprimer sur nous-mêmes et sur. Je me permets de me faire le porte-voix de tous ceux-là qui ne sont pas là. Je parle à l'un, non. Voilà. Et pour dire que seule la personne concernée peut véritablement se présenter et parler d'elle-même. Voilà. On dit on est mieux chez soi, comme on dit chez nous en Afrique, c'est vrai. Et quand tu t'exprimes toi-même sur ce que tu as vécu, malgré les interrogations des autres, si on te donne l'occasion, tu es capable de décrire au mieux ce que tu as vécu. Tu es capable de faire passer le message auprès de ceux-là qui vont vouloir... C'est ce que je disais tantôt, quand ils vont te connaître, ils vont savoir que finalement, tu es leur semblable. Parce que tu vas être capable d'expliquer ou bien de véhiculer ce qui, plus ou moins, ils ont déjà vécu eux-mêmes. Ils vont se reconnaître dans ton histoire. Et c'est ça qui fait la force de pouvoir prendre la parole.
Merci Kofi pour ta présentation de ce cycle d'écoute. Donc, trois dates à retenir. Le 9 mars, avec la présentation du documentaire radio Dubliné et terrorisé à 18h à la Maison de la Création et de l'Innovation sur le campus universitaire. Le 10 mars, au 102, à 18h pour Les mots des autres, suivi d'un buffet, et à 20h30 pour Face au récit médiatique Notre Parole. Et enfin, le 11 mars, à Antigone, à partir de 19h, avec de quoi se restaurer pour ensuite écouter « A-t-on le droit d'exprimer sa colère ?» On est sur Radio Campus Grenoble 90.8 et on présente le programme des rencontres de géopolitique critique de cette année. Je voudrais en particulier attirer votre attention également sur deux ateliers auxquels nous vous invitons à participer, qui sont « Pensons la société qui vient » le 17 mars et « Quelle liberté de circulation et d'installation pour une société plus juste ?» le 19 mars. Moifo, tu es salarié de Modus Operandi. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle invitation est-ce qu'on lance pour l'atelier « Pensons la société qui vient ?» Qu'est-ce qu'on attend des personnes qui vont venir avec nous cette soirée-là ?
Oui, ce sera un moment hyper riche en termes de croisement des regards. Parce que on peut émettre des idées, mais il est toujours difficile de prédire avec exactitude ce qui pourrait advenir demain ou dans les jours à venir. Mais cet atelier nous amène justement à nous dire que bien qu'on ne puisse point prédire avec exactitude, on peut au moins favoriser la rencontre des imaginaires sur la façon dont on souhaiterait voir le monde de demain, la société de demain. Comment est-ce que dans nos interrelations entre diverses personnes, on arrive justement à donner un autre contenu à ce mot qui très souvent est galvaudé, qu'on appelle le vivre ensemble. Donc c'est un atelier où les différents acteurs qui composent notre société, que ce soit les acteurs associatifs, que ce soit des personnes particulières ou individuelles qui souhaiteraient justement venir réfléchir avec nous pour que nous essayions de mettre sur la place publique cette réflexion qui émanerait justement de nos différents imaginaires sur la façon dont on verrait le monde demain, dont on souhaiterait qu'il soit. Et si on voudrait qu'il soit selon notre propre imaginaire, alors venez à ce moment-là, ce sera le jeudi 17 mars
à 19h.
Pour la rencontre de nos imaginaires à travers le thème « Pensons la société qui vient ».
Donc oui, le 17 mars à 19h à la capsule. Et Karine, est-ce que tu pourrais nous dire à quoi seront conviés les participants et participantes de l'atelier « Quelle liberté de circulation et d'installation pour un monde plus juste ?»
Alors, on est vraiment privilégiés avec cet atelier, parce que cet atelier nous propose de nous plonger dans la réflexion de Migre Europe, cette réflexion qu'ils ont initiée avec l'écriture de leur nouvel atlas des migrations. Alors, Migre Europe, c'est un réseau d'associations européennes et africaines qui réunit des militants, des chercheurs, des chercheuses, qui travaillent à faire connaître et à dénoncer les politiques de mise à l'écart des personnes en migration, en particulier l'enfermement dans des camps, les formes diverses d'expulsion, la fermeture des frontières ainsi que l'externalisation des contrôles migratoires pratiqués par l'Union européenne et les États membres. Ce réseau contribue ainsi à défendre les droits fondamentaux des exilés et à promouvoir la liberté de circulation et d'installation pour toutes et tous. Donc pour cet atelier, on a invité Sarah Casella Colombo. Elle est membre de Migre Europe, elle est également maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Grenoble-Alpes. Et cette année, c'est elle qui coordonne le nouvel atlas de Migre Europe, qui a décidé de se consacrer cette année justement à cette question de la liberté de circulation et d'installation. La liberté de circulation fait en effet l'objet d'un traitement très clivant dans l'espace public. Elle est présentée comme un slogan, une manière de contester les politiques d'immigration actuelles, soit comme un épouvantail pour dénigrer toute tentative de penser les politiques d'immigration hors du strict contrôle migratoire. Donc l'objectif de l'Atlas cette année est de prendre au sérieux l'idée et la mise en pratique donc, de cette liberté de circulation. Donc ce qu'on vous propose, c'est justement de venir partager ce que vous mettez derrière cette idée de liberté de circulation, de nous poser collectivement la question de comment la faire exister. Alors autant du côté de la question des routes, des traversées dans les parcours de migration qui sont devenus si dangereux du fait du contrôle des frontières par les États, que du côté de la liberté de circulation. En fait, il n'y a pas de liberté du côté d'installation. En fait, il n'y a pas de liberté de circulation sans liberté de circulation. Et donc des conditions d'existence, de la présence, de la participation des nouveaux et des nouvelles arrivées.
Merci Karine, merci Moifo pour ces éléments sur donc les soirées qui auront lieu le 17 mars et la matinée du 19 mars à 11h sur la liberté d'installation et de circulation à la capsule. Maintenant, on vous propose une pause musicale sur Radio Campus Grenoble 90.8 avec un morceau choisi par Alexia et Thomas de l'association Associa Jeunes qui nous parleront après la pause de la soirée qu'ils organisent le 18 mars intitulée « Peut-on gagner contre la discrimination ?» Mais d'abord, Alexia, est-ce que tu peux nous dire en un mot pourquoi tu as choisi cette musique ?
Bonsoir, alors on a choisi cette musique avec Thomas parce que cette personne qui chante la musique, elle s'appelle Elodie Costa. Et en fait, elle a une sorte de maladie pathologique qui s'appelle le nanisme. Et elle, à travers cette musique, elle parle de la différence et ça fait sa force. Et en fait, ça nous permet de nous rassembler autour d'un sujet qui, parfois, est peut-être tabou. Et aujourd'hui, bah, on veut vous faire écouter et que vous vous amusiez aussi dans la musique et avec nous.
Merci Alexia. On écoute tout de suite.
Fleur de mots sur le tempo. Peu importe nos différences.
Vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8 et dans l'apérophonie aujourd'hui, on parle de la 6e édition des rencontres de géopolitique critique qui a lieu du 7 mars au 19 mars. Vous venez d'entendre une chanson choisie par Alexia et Thomas, membres d'Associa Jeunes, qui vont maintenant nous présenter le travail que l'association mène depuis environ 2 ans et dont ils rendront compte le 18 mars avec une soirée au Transfo qui s'appelle « Peut-on gagner contre la discrimination ?» Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de ce travail et de cette soirée ?
Alors premièrement, je vais commencer par vous présenter l'association. Donc Associa Jeunes, c'est une association qui principalement permet aux jeunes de s'exprimer sur un sujet qui les touche. Donc en ce moment, on travaille sur la discrimination. Ça fait à peu près 2 ans qu'on est dessus. Le plus important pour Associa Jeunes, c'est que les jeunes qui viennent s'expriment à leur façon et principalement, ça passe à travers l'art. Et chacun utilise un art qui lui parle, donc ça peut être le chant, la peinture, la danse, le rap, le slam. Et avec ça, on a prévu de faire une illustration du projet sur lequel on travaille. Et je vais passer la parole à Thomas qui va vous expliquer un petit peu le projet.
Notre association, elle a été appelée par la métropole de Grenoble qui avait pour projet un projet qui s'appelle FEJ, qui est le fonds d'expérimentation jeunesse qui parle pour les jeunes. En gros, c'est faire des projets pour les jeunes et financer ces projets. Et en fait, nous, on a l'idée qu'on avait eue pour ce projet, c'était de mettre en place plein d'interviews un peu partout dans Grenoble pour faire tout ça dans un rapport. Et nous, comme elle l'a dit Alexia, nous, on est des gens aussi qui est touchés aussi par l'artistique. Et faire que sur un rapport, c'est pas vraiment ce qu'on fait de mieux. Je pense que nous, ce qu'on fait de mieux, c'est aussi l'art. Et on voulait mettre ça en valeur, là, le 18 mars. On voulait mettre en valeur le 18 mars d'une forme assez artistique, avec des débats,
d'interprétation artistique sur des sujets. En fait, le but, c'est surtout de voir à travers cet événement qu'il n'existe pas une seule discrimination, mais il existe plusieurs types de discrimination. Et parfois, on n'est pas forcément au courant de comment ça touche certaines personnes et comment on fait pour vivre avec. C'est pour ça qu'on a organisé un temps de parole avec le public, qui va permettre aussi de faire réfléchir et ouvrir les consciences. Et le deuxième temps, on va dire, c'est un temps où on va permettre à des jeunes qui connaissent la structure Associa Jeunes principalement de s'exprimer artistiquement. Donc ça fait aussi petite prestation.
Et aussi, je voulais aussi dire, par exemple, c'est ce qu'il avait dit Kofi tout à l'heure, il parlait un peu de le fait de parce que l'événement, en fait, c'est un peu d'une certaine manière de se regrouper un peu tous, parler un peu de la discrimination que souvent nous les jeunes on connaît, et c'est bien aussi de parler, de se dire les choses et de s'exprimer, et c'est important.
Ouais, parce qu'en fait, la discrimination, on se rend compte que, surtout avec le rapport qu'on a fait, c'est que les jeunes, ils pensent que c'est quelque chose de banal, et le but, c'est de faire changer ça, parce qu'en fait, on n'en parle plus, pas parce que c'est plus intéressant, c'est parce qu'on pense que c'est quelque chose qui est quotidien et qui n'a pas besoin d'être exprimé, alors que non, nous, on est là pour justement faire changer ça.
Et en plus, souvent, vu que c'est devenu quelque chose de banal pour nous, les jeunes, on oublie qu'on a aussi des droits et que c'est important qu'on les sait et faut les dire, en fait.
Et j'ai une question par rapport au processus d'enquête sur la discrimination. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment elle s'est passée, cette enquête ? Peut-être, Leïla, si tu as envie ou...
Oui, alors bonjour à tous. Donc pour les enquêtes, on s'est principalement appuyé sur les témoignages. On a fait beaucoup d'entretiens, donc comme l'a rappelé Thomas, beaucoup d'entretiens, et aussi on a organisé beaucoup de tables rondes pour échanger les discussions. Déjà, ça a permis à toutes les personnes qui étaient venues de s'enrichir via ces discussions-là. Et nous, ça nous a permis de rédiger le rapport à partir de ces échanges, de ces témoignages. Et on faisait aussi des événements dans lesquels on observait, si je puis dire, les personnes, et ça nous aidait à argumenter ce rapport-là. Donc d'ailleurs, l'événement du 18 mars, il va permettre de justement mettre en lumière ce rapport-là, de refléter ça et de... refléter le rapport et voilà, d'échanger là-dessus.
Et du coup, ça veut dire que c'est Associa Jeunes, donc les membres d'Associa Jeunes, qui ont mené les entretiens.
Oui, c'est
ça. Accompagné aussi de Eric Moinfaux aussi, qui fait aussi partie de l'association Modus Operandi, qui nous a beaucoup aussi aidés.
Voilà.
Ok, d'accord. Et je me demandais, quand tu as dit on fait de... ces événements nous permettent de faire de l'observation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Ça veut dire en fait que quand les personnes discutent et échangent sur un sujet, on regarde comment en fait, sur quoi ils débattent, sur quoi ils sont pas d'accord. Et ça, souvent, ça reflète une incompréhension de la part de la jeunesse, parce que on voit en fait qu'ils sont, par exemple, pas assez au courant de ce qui est mis en place par l'État. Et pour eux, il y a rien qui est mis en place par l'État. Donc ça reflète beaucoup. Et le débat qui est créé vis-à-vis de ce sujet, ça nous fait... Enfin, on l'utilise dans notre rapport parce qu'on a on se rend compte finalement qu'ils ne sont pas au courant ou alors qu'ils pensent que c'est inutile. Souvent, c'est aussi ça.
Et que même carrément, on oublie aussi même de faire la différence entre la discrimination et le racisme. On mélange des fois les deux, on ne sait même plus qui est quoi en fait.
Et tu ferais quoi comme différence du coup ?
Moi, je pense que la différence, c'est que, en fait, le racisme, c'est plus quelque chose qui est plus de manière... comment dire ? En gros, je vois comme si chaque ingrédient, par exemple le racisme, le sexisme, tout ça, c'était les ingrédients qui ramenaient à la discrimination. Comme si c'était la discrimination, c'était la forme la finalité en fait de tout ça.
Et en fait, la discrimination, nous, ce qu'on apprend tous les jours en service civique aussi, c'est que la discrimination, elle passe surtout par un rapport où il y a une personne qui a un pouvoir, un certain pouvoir, et qui touche à un droit. Et en fait, il profite un peu du statut qu'il a d'une certaine supériorité face à l'autre personne, qui lui permet de lui retirer un droit ou de le déformer. Et en fait, on aimerait que ça change, parce que c'est vrai que la discrimination, c'est souvent par rapport au droit, à l'accès à quelque chose, au rejet par rapport à un groupe de personnes. Et le racisme, en fait, on peut le vivre tous les jours, dans la vie de tous les jours, et en fait, c'est vécu différemment. Et notre événement, justement, c'est pour plus parler de cet accès au droit qu'on n'a pas, dont on manque.
Ok. Et est-ce que elle s'est située à quelle échelle, cette enquête ? Elle est restée au niveau local de Grenoble ou...
National. National.
Okay. Vous avez été du coup dans différentes villes.
C'est ça. On a collaboré avec Aubervilliers, Nantes. Aubervilliers, Nantes et
Brest. Non ?
Et Villeurbanne aussi.
Villeurbanne.
Ok, je reviens juste sur un truc que tu as dit avant, Thomas. Tu disais que vous trouviez dommage que ce rapport il soit présenté que sous forme de rapport, et c'est pour ça que vous avez imaginé cette soirée. Pourquoi ?
Parce que moi, personnellement, je pense que nous, les jeunes, sous forme rapport,
ce qui nous parle.
Ce qui nous parle le plus. Et nous, en fait, et c'est clairement ce que fait Associa Jeunes, c'est en fait mettre en valeur les expressions des jeunes à travers l'art. En gros, on peut s'exprimer en faisant de l'art, en faisant du chant, du rap ou du slam ou de la danse.
Ça apporte de l'originalité et c'est... Comme on est souvent en cours, les jeunes, ils sont en cours, ils sortent, ils n'ont pas envie de réentendre une sorte de mini-conférence, ils veulent du nouveau et quelque chose qui leur change les idées. Et Associa Jeunes, c'est exactement là où il faut aller pour retrouver ce genre de prestations.
Chouette. Est-ce que Karine, tu avais une question ?
Ouais, moi j'ai une question sur ce dernier point, en effet, sur la forme de restitution des résultats de l'enquête et votre choix de se saisir d'une forme artistique. Moi, ça me fait penser que vous vous adressez du coup pas au même public, entre un rapport écrit qui va faire plusieurs dizaines de pages ou une mise en scène et un spectacle vivant. Je pense qu'on touche pas les mêmes cibles. Est-ce que c'est un point auquel vous avez réfléchi, et quels sont justement les publics cibles que vous cherchez à atteindre ?
Alors, je pense qu'on est un peu obligé aussi d'émettre un rapport.
Justement, en fait, l'objectif de faire des prestations artistiques, c'est En fait, on sait tous que l'art, ça part à tout le monde. Et ça parle non seulement à la jeunesse, enfin, à tout type... Enfin, tout type de personnes, tout type d'âge. Et les outils artistiques, depuis longtemps, ça sert justement aussi à dénoncer des problématiques sociétales. Donc aujourd'hui, on a envie d'utiliser cet outil-là pour ça, parce que ça parle à tout le monde. Et parce qu'aujourd'hui, un jeune, l'encourager à faire une prestation artistique en dénonçant quelque chose, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus parlant pour lui, parce qu'il va être libre de le dénoncer comme il le souhaite à travers un outil artistique. Après, comme vous l'avez bien précisé, justement, on fait un rapport parce que forcément, il faut une trace écrite de ce qu'on fait. Donc, ce rapport-là, il va permettre de mettre à l'écrit ce qu'on a travaillé, ce qu'on a constaté et aussi les solutions qu'on propose, puisque dans ce rapport, on ne l'a pas dit, mais... On propose aussi des solutions, parce que c'est bien beau de travailler sur un sujet, mais si on ne propose pas de solution, ben on n'avance pas. Et souvent, quand on faisait les témoignages, ben, ce qui revenait, c'est qu'ils nous expliquaient leur situation, mais pour eux, il n'y avait pas de solution de toute façon. Donc, alors que nous, ce n'est pas ce qu'on a cherché à faire à travers ce rapport. Et les outils artistiques, ben, c'est pourquoi pas aussi développer de futures solutions.
C'est ça.
Merci Leïla, Thomas, Alexia de nous avoir partagé ces informations qui nous donnent envie de venir partager donc avec vous cette soirée. Peut-on gagner contre la discrimination ? Le 18 mars à 18h30 au Transfo. On était donc aujourd'hui sur Radio Campus Grenoble pour présenter la 6e édition des rencontres qui ont lieu du 7 au 19 mars avec 12 événements au programme, dont nous allons vous décrire un peu les différentes étapes avant de se quitter.
Alors, les rencontres s'ouvrent avec donc ce cycle d'écoute des documentaires radiophoniques produits par l'atelier radio À plus d'une voix, qui est l'atelier radio porté par Modus Operandi. Ce cycle s'ouvre donc le mardi 9 mars à partir de 18h à la Maison de la Création sur le campus de Saint-Martin-d'Hères, où on vous propose d'écouter le documentaire « Dubliné et terrorisé ». Il date de 2019 et donc il évoque ce règlement de Dublin qui contraint au niveau européen les personnes qui veulent faire une demande d'asile à ne pas choisir librement le pays d'installation. Donc ceux et celles qui vivent au quotidien ce règlement analysent son fonctionnement et sa logique. La deuxième écoute aura lieu le jeudi 10 mars, ça se passe au 102. Rue d'Alembert à Grenoble, et on vous propose deux documentaires. Donc à 18h, Les mots des autres, c'est un documentaire qui date de 2018, c'est le premier produit par l'atelier. Et après un buffet à prix libre, on vous propose une seconde écoute à 20h30 avec le tout dernier documentaire produit par l'atelier, Face au récit médiatique, Notre parole. Donc celui-ci est tout frais, il vient à peine d'être fini d'être produit et monté. Et donc, il parle du traitement médiatique de la question migratoire et donc de la place ou de l'absence de place, justement, de la parole des personnes en migration sur ces questions-là. Et enfin, dernière soirée, le vendredi 11 mars, à partir de 19h30 à Antigone, un documentaire « A-t-on le droit d'exprimer sa colère ?» qui date de 2020. Qui est une question donc, qui s'est posée au cours d'une conversation de l'atelier et qui pose cette question des contraintes, des injustices et des violences que vivent les personnes en précarité administrative et en procédure d'asile.
En bonus, dans ce cycle d'écoute, on a invité la réalisatrice radio Malika Ung pour son documentaire « Reste », dont la première diffusion aura lieu le 14 mars à 18h. Au collectif voisin, Malika Ung, qui anime aussi une émission sur Radio Campus Grenoble qui s'appelle Rhizome.
Alors on revient un tout petit peu en arrière dans le temps, encore le jeudi 10 mars, à partir de 12h15, ça se passe sur le campus. C'est un partenariat avec le festival Trouble ton genre et donc un atelier d'autodéfense proposé par l'association Ancrage. Donc 12h15 sur le campus, ça dure jusqu'à 13h45.
Venez vous détendre en jouant au jeu Autonomia Zapatista le 12 mars à 14h30 à la Maison des Jeux. C'est organisé par l'Assemblée grenobloise d'accueil de la délégation zapatiste. L'idée, ça sera de construire ensemble une autonomie dans un territoire qui affronte maintes difficultés.
le mardi 15 mars en soirée à partir de 18h. On vous invite à Jarry, au centre socioculturel, pour une soirée de partage d'expériences à la marge de la citoyenneté. Donc plusieurs expériences et pratiques de la citoyenneté seront proposées à plusieurs voix, avec notamment la présentation du livre « Éprouver le sens de la peine » qui porte sur la probation comme alternative à la prison à partir de la parole des probataires par ces trois auteurs, donc Jérôme Ferrand et Olivier Razac, qui sont tous les deux maîtres de conférences à l'Université Grenoble-Alpes, et Fabien Gouriou, qui est docteur en psychologie à Rennes.
Le jeudi 17 mars à 19h, à la capsule, on en a parlé tout à l'heure, vous pourrez libérer vos critiques et rêves pour imaginer une citoyenneté plurielle et radicale.
Vendredi 18 mars, à partir de 18h30, au Transfo, vous savez désormais tout de cette soirée « Peut-on gagner contre la discrimination ?» puisque Thomas, Alexia et Leïla viennent de vous en parler.
Le dernier jour des rencontres, on vous propose à 11h un atelier animé, comme on l'a dit tout à l'heure, par Sarah Calzella-Colombo, politiste à l'UGA et membre de Migre Europe. On cherchera à comprendre ce qu'on met derrière l'idée de liberté de circulation et d'installation pour aussi nourrir notre imagination politique.
Et toujours samedi 19 mars, à partir de 19h, à la librairie Les Modernes, rue Lacanale à Grenoble, on vous propose une rencontre avec Nejma Kassimi, autrice du roman « Sensible ». C'est un roman qui pose la question de comment se sentir intégré quand, pourtant né en France, on est sans cesse renvoyé à une origine étrangère. Nejma Kassimi partage dans ce roman justement sa prise de conscience progressive de cette assignation.
Pour terminer cette émission, je vous rappelle que le programme des rencontres des géopolitiques critiques est disponible sur notre site internet www.modop.org et qu'on vous attend avec impatience et joie pour partager ces deux semaines intenses de débats, d'échanges, d'ateliers, d'écoutes radio, de spectacles artistiques. Je vous remercie pour votre écoute. On est sur Radio Campus Grenoble et on termine avec Galong de Attili Bandolero, Joseph Cotton, Bigaranx et Green Cross. Bonne soirée, bonne journée et à très vite.
Galang and it's a new brand song. Galang, Galang and it's a new version. Galang, Galang and with a new brand song. Galang, Galang and with a new version. Well, is it Mr. Katnaka, you set the pattern. Bandili Rodaya with another hit song. Designed to roll up all the session. Tell him this a one you had the right tradition. Tell him this a one you full of inspiration. You got to hold a firm meditation. King Selassie, I is a conquering lion. Just galang, galang with a new brand song. Galang, galang and it's a new brand song. Galang, galang and it's a style and fashion. Galang, galang and it's a brand new song.
Well, I'm in the bigger ranks, I am the rum dance man. Guess you never know, I am the mic magician. Drop microphone from 90 no longer. Wait a minute, take it to the foundation. If you see your thing, you know it at the back of me. And questing for music and we coming out stronger. Live again, them style to the man and woman. Massive and crew, come try the gang and galang. Galang, this is a brand new version. And galang, galang, come shake up me. And then galang, galang in a silent fashion. Latest singer come from the station.
Galang, girl, we make you jump and twist. Easy Bandolero, can you give me sin of this? Now we're with Tilly Tilly and the real specialist. Living to city, we not come from Paris. Get closer, we are the cool operator. Not interpreter, we're the music creator.